j'étais en retard ce matin parce que j'ai hésité à. Je suis pas sûre que ça me fasse du bien de venir ici.
C'est pas le but, en tout cas pas le but immédiat.
Ah bon? Pourquoi venir alors? Je suis pas maso. C'est vrai, depuis que je viens ici, rien ne va, c'est pire qu'avant.
Commencer un travail, c'est un bouleversement. C'est normal que vous ayez une sensation d'inconfort. C'est une étape nécessaire.
Pour l'instant, je me sens surtout très angoissée. Depuis que Simon est venu s'installer chez moi, je suis dans un état de stress pas possible. Je comprends pas. Pourtant, j'ai attendu ce moment pendant 2 ans. J'essaie de faire des efforts, de me dire que je vais m'habituer à sa présence. Ça marche pas. Les crêpes au petit-déj, par exemple, j'en peux plus. Je vous jure, cette odeur de beurre le matin, ça m'écœure. J'aurais jamais dû lui dire que j'aimais ça. Maintenant, je suis coincée. Il m'en fait tous les matins. Il est tout content dans son petit tablier, là, à faire sauter ses crêpes. Et puis l'autre jour, je rentre chez moi le soir et je vois éparpillés par terre tous mes bouquins. Simon, il s'était mis en tête de ranger ma bibliothèque dans l'ordre alphabétique. Je supporte pas le fait de voir Apollinaire à côté de Zola. Non, mais je sais, ça partait d'un bon sentiment de sa part, c'est gentil, mais j'ai pas envie d'habiter à la FNAC, quoi. Ça vous ennuie ce que je vous raconte?
Non, je vous écoute.
Non, mais je suis pas comme ça d'habitude, mais là, ça fait 20 ans que je vis seule, donc j'ai besoin d'un peu de temps pour m'acclimater, c'est tout. Surtout quand on vient d'une famille nombreuse. La solitude, c'est un luxe.
C'est pas ce que vous disiez à propos du confinement.
Non, mais ça n'a rien à voir. Le confinement, c'était une solitude imposée.
Vous voulez dire qu'avant ça, votre solitude était choisie?
Non, c'est pas ça. J'ai envie d'être en couple. Mais en fait, là, je crois que. En fait, c'est trop. Voilà, c'est trop.
Trop quoi? Trop quoi?
C'est trop précipité, c'est trop intrusif aussi. Ce week-end, Simon a voulu me faire une surprise. Moi, je sais pas, je pensais qu'on allait fêter la réouverture des terrasses. Aller en Normandie, manger des huîtres. Je sais pas. En fait, non, on est allé à Chatou. Déjà rien que le nom, Chatou. Enfin bref, il avait repéré une maison avec un jardin. Une grande maison avec 4 chambres. Une pour nous et une pour chacun de ses 3 enfants.
Simon envisage donc que vous emménagiez ensemble. Encore un acte très fort.
Quelle horreur. Lui, il pensait que j'allais sauter au plafond. Il arrêtait pas de dire que si on était reconfiné, on serait content d'avoir un extérieur. Enfin, et moi, je n'arrivais pas du tout à me projeter. Juste la famille qui habitait là-bas, ils n'avaient pas fait les choses à moitié. Hein. Il y avait des cache-prises partout, des plastiques là sur les coins de table. Il y avait même des barreaux aux fenêtres sur les étages supérieurs. Même pas moyen de se jeter par la fenêtre.
Et pourquoi auriez-vous envie de vous jeter par la fenêtre?
C'est une plaisanterie.
Ah.
À un moment, Simon a proposé de poser une cloison dans le double salon. Pour faire une 5e chambre au cas où. Au cas où on aurait un enfant.
Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ça?
Je sais pas, j'ai été rattrapée par une espèce d'angoisse. Enfin, j'ai eu comme un voile sur les yeux. Je voyais tout flou, tout comme dans un brouillard, et j'ai failli tomber dans les pommes. Pendant 2 ans, on se voyait une fois par semaine, ça lui allait très bien. Et là, maintenant, d'un coup, il veut qu'on s'installe ensemble en banlieue, avec ses enfants une semaine sur deux et un enfant H24. C'est irrationnel, sa façon de faire.
Et pourquoi ne pas lui avoir expliqué ce que vous ressentez?
Vous voulez que je lui dise quoi, en fait? Que je suis pas sûre de vouloir habiter avec lui? Que je suis pas sûre de vouloir un enfant? Que je préférais comme c'était avant?
Est-ce que c'est le cas?
Non. Je sais pas. En fait, je crois que je suis pas faite pour la vie de couple. Je suis pas faite pour la vie de couple. Voilà, c'est ça. Chaque fois que j'ai essayé de vivre avec quelqu'un, ça s'est passé comme ça. Je suis toujours rattrapée par une espèce de. de cafard. Enfin, je veux dire, c'est ça le couple. On se rencontre, on s'installe ensemble, on fait des enfants, on met des cache-prises partout, des barreaux aux fenêtres et une bibliothèque bien rangée. Mais quelle angoisse. Je supporte pas l'idée d'une vie où il y a rien qui dépasse, une vie sans échappatoire. Pourquoi j'arrive pas à être heureuse?
Quand vous exprimez cette angoisse d'une vie sans échappatoire, avec des barreaux aux fenêtres, j'entends aussi une autre angoisse. Celle d'être enfermée dans cette malédiction dont vous m'avez parlé, avec l'impossibilité de répondre aux attentes de vos parents, puisqu'elles sont contradictoires.
Sans quoi que je fasse, ça n'ira pas. Ça rend dingue, ce truc.
Dans votre famille, vous étiez 4 enfants, n'est-ce pas?
Oui.
Comme dans la famille que vous auriez avec Simon. Ces 3 enfants et le bébé que vous auriez tous les deux. La perspective de reproduire un schéma similaire à celui que vous avez connu enfant, c'est peut-être ça qui est angoissant.
Non, ça, c'est pas comparable du tout. Nous, on était une vraie famille.
Votre famille avec Simon serait donc fausse?
Non, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Une famille bricolée, là, avec un peu de Bretagne par-ci, un peu de Mali par-là.
Exactement. C'est peut-être ça qu'il faut accepter. Fonder une famille qui sera différente de celle dans laquelle vous avez grandi.
Non, mais de toute façon, ces enfants, ils vont me détester. Et puis, je suis sûre que si on fait un bébé, ils l'accepteront jamais comme l'un des leurs. Déjà, avec sa couleur de peau, ce sera toujours un demi-frère ou une demi-sœur. J'ai pas envie d'avoir une moitié d'enfants.
La semaine dernière, vous avez parlé du traitement de faveur que votre mère réservait à vos frères.
Oui, alors?
Quelle place aviez-vous dans votre famille?
Le strapontin.
Est-ce que vous avez peur de redevenir celle qui doit toujours prouver qu'elle mérite sa place?
Je crois qu'au fond, je me sens pas capable d'assumer toutes ces responsabilités, là. Devenir la chef d'une famille nombreuse.
Comme votre mère?
Ma mère, elle a ça dans le sang. Je peux vous dire qu'elle assurait avec les jumeaux. Elle donnait le biberon à l'un tout en berçant l'autre. Elle changeait les couches tout en nous donnant le bain. C'était l'homme orchestre. Moi, je suis pas comme ça. J'ai pas envie de sacrifier ma vie sociale, mon boulot, tout ça pour éduquer une tripotée d'enfants. Surtout si c'est pas les miens.
Qu'est-ce que votre mère a sacrifié pour vous élever?
Je sais pas. Des fois, je me demande ce qu'elle aurait fait si elle nous avait pas eu. Des études, peut-être, et encore, je sais même pas de quoi, puisque... Bon, alors, elle serait restée au Mali.
Votre mère a grandi là-bas?
Oui. Dans un village près de Bamako.
Comment est-ce qu'elle est arrivée en France?
Elle a rejoint mon père. Lui, ça faisait déjà 10 ans qu'il était là. Il est arrivé en 68. Je me souviens, mon grand-père, il me racontait toujours comment c'était le bordel en France. Avec les grèves, là, les manifestations. C'était encore pire qu'au Mali. Mon père, lui, il est pas allé à l'école. Il a commencé à travailler à 16 ans sur les chantiers. Enfin, de toute façon, on s'en fout. L'histoire de mes parents, c'est la même que tous les immigrés des années 70. C'est rien d'exceptionnel.
Poursuivez quand même.
Bah, à 25 ans, mon père était toujours pas marié, donc ses parents l'ont emmené un été au Mali pour rencontrer des femmes. Et dans l'eau, bah, c'est sur ma mère qu'il a flashé.
Ah. C'était donc un mariage arrangé?
Bah, oui et non. Pour mon père, c'était un vrai mariage d'amour, oui. Il est tombé raide dingue de ma mère. Je veux dire, personne n'a eu besoin de le convaincre.
Et pour votre mère?
Pour ma mère, c'était la chance de sa vie. Enfin, mon père, c'était celui qui avait réussi. Il était beau gosse, en plus. Le prince charmant sur son cheval blanc qui vient chercher sa princesse et qui l'emmène vivre au pays des merveilles. En fait, parfois je me dis qu'à cette époque c'était plus simple, on se posait moins de questions. Les gens se mariaient, ils faisaient des enfants et quand on a moins le choix, on fait ce qu'on a à faire.
Donc vous auriez préféré qu'on vous impose un mari?
Non, mais je vois bien que ma mère, elle s'est posé moins de questions. Elle a fait ce qu'il y avait de mieux pour elle.
Quel âge avait-elle?
16 ans. Quoi? C'était courant à l'époque, vous savez. Ça l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Regardez, Simon et moi, on a 8 ans de différence.
Mais vous n'avez pas 16 ans.
Bon, d'accord, c'est pas la même chose, mais... Je vous parle du Mali, là, et des années 70. C'était pas vraiment le royaume du féminisme et de la modernité.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Ils sont partis en France et quelques mois après, ma mère est tombée enceinte.
À 17 ans, donc.
Je vois très bien où vous voulez en venir. On avait le même âge quand on est tombé enceinte pour la première fois, c'est ça? Non, mais vous voyez bien que c'est pas la même chose. À 17 ans, j'étais une gamine, je sortais avec un punk en cachette. Ma mère, elle, elle était mariée, et c'est ce qu'elle voulait, avoir des enfants et une famille.
Si vous le dites.
Non, mais parce qu'on avait le même âge, alors on aurait vécu la même expérience. On oublie le contexte et hop, c'est QFD. J'espère que vous avez été plus convaincant devant le juge. Bon, oui, je sais, on n'est pas censé parler de votre affaire.
Nous avions aussi convenu que si vous commenciez une thérapie avec moi, c'était à la condition de ne plus intervenir dans ce dossier.
Ok, j'ai parlé à Esther Gagé pour qu'elle témoigne en votre faveur, et alors? Ça vous a été utile? Où est le problème? J'ai dit à Benoît d'insister, et pour lui, ça servait à rien. J'allais pas vous laisser vous faire piétiner à l'audience parce que mon associé est mou du genou. Vous avez votre éthique, et j'ai la mienne.
Je me demande s'il n'y avait pas une intention cachée derrière cette éthique.
Quelle intention cachée?
Celle de compromettre le travail que nous faisons ici.
En même temps, si vous arrêtez d'exercer, j'aurais aucune chance de continuer ce travail.
En tout cas, pas avec moi.
À qui je vais raconter mes petites histoires de château?
En intervenant auprès d'Esther, vous avez rompu notre pacte. Et je me demande si ça n'était pas une stratégie d'évitement. Nous avons touché un point sensible en fin de séance la semaine dernière.
Oui, c'est vrai, j'étais un peu secoué la semaine dernière.
Qu'est-ce qui vous a secoué?
C'est quand vous avez commencé à poser des questions sur ma mère. Vous vouliez m'entendre dire qu'elle m'avait poussé à avorter. Mais en fait, je sais pourquoi vous avez dit ça. C'est parce que vous n'avez pas digéré ce que je vous ai dit la dernière fois. Quand on a parlé de votre influence sur ma décision.
On y revient donc. À cette dette que j'aurai envers vous.
Non, mais c'est facile de reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Ma mère, tout ce qu'elle voulait, c'était m'aider. Enfin, elle m'aurait jamais forcé la main.
Vous m'aviez dit que vous n'aviez jamais reparlé de cet avortement ensemble.
Pour se dire quoi? Heureusement, on a de meilleurs souvenirs ensemble.
Lesquels, par exemple?
La naissance de Djibril, par exemple, et celle des jumeaux aussi. Quand j'ai eu mon bac, on a fait une grande fête à la maison.
Est-ce qu'il y a des moments que vous avez partagés avec votre mère, uniquement vous deux, et qui vous ont marqué?
Oui, plein. C'est juste que là, c'est difficile d'en isoler un, comme ça.